Le capitaine Burle, suite, chapitre 3. Dans le régiment, ce fut une stupéfaction. Jupponeux avait rompu avec Mélanie. Au bout d'une semaine, la chose était prouvée, indéniable. Le capitaine ne remettait pas les pieds au café de Paris. On racontait que le pharmacien avait repris la place toute chaude, à la grande tristesse de l'ancien magistrat. Et, fait plus incroyable encore, le capitaine Burle vivait enfermé rue des Récollets. Il se rangeait décidément, jusqu'à passer les soirées au coin du feu, à faire répéter des leçons au petit Charles. Sa mère, qui ne lui avait pas soufflé mot de ses tripotages avec Gagneux, gardait, en face de lui, dans son fauteuil, sa raideur sévère. Mais ses regards disaient qu'elle le croyait guéri. 15 jours plus tard, le major Laguitte vint un soir s'inviter à dîner. Il éprouvait quelque gêne à se retrouver avec Burle, non pour lui, certes, mais pour le capitaine, auquel il craignait de rappeler de vilains souvenirs. Cependant, puisque le capitaine se corrigeait, il voulait lui donner une poignée de main et casser une croûte ensemble. Ça lui ferait plaisir. Burle était dans sa chambre lorsque Laguitte se présenta. Ce fut Madame Burle qui reçut ce dernier. Après avoir dit qu'il venait manger la soupe, il ajouta en baissant la voix « Eh bien ?» « Tout va pour le mieux, » répondit la vieille femme. « Rien de louche ?»« Rien, absolument. Couché à 9 heures, pas une absence et l'air très heureux. »« Ah, nom de Dieu, c'est gentil !» cria le major. « Je savais bien qu'il fallait le secouer. Il a encore du cœur, l'animal. » Quand Burle parut, il lui serra les mains à les écraser. Et, devant la cheminée, avant de se mettre à table, on causa honnêtement, on célébra les douceurs du foyer domestique. Le capitaine déclara qu'il ne donnerait pas son chez-lui pour un royaume. Lorsqu'il avait retiré ses bretelles, mis ses pantoufles et qu'il s'allongeait dans son fauteuil, le roi, disait-il, n'était pas son oncle. Le major approuvait en l'examinant. Certes, la bonne conduite ne le maigrissait pas, car il avait encore enflé, les yeux clos, la bouche épaisse. Il sommeillait à demi, tassé dans sa chaire, en répétant « La vie de famille, il n'y a que ça, ah, la vie de famille !»« C'est très bien !» dit le major, inquiet de le voir si crevé. « Mais il ne faut de l'exagération en rien !» « Prends de l'exercice, entre de temps en temps au café. »«
Au café? Pourquoi faire? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Non, non, je reste chez moi. »
Charles rangeait ses livres, et Laguitte resta surpris de voir paraître une bonne qui venait mettre la table.
« Tiens, vous avez pris quelqu'un ? »
dit-il à Madame Burle.
« Il l'a bien fallu. » répondit celle-ci en soupirant. « Mes jambes ne vont plus, tout le ménage était à l'abandon. Heureusement que le père Cabrol m'a confié sa fille. Vous connaissez le père Cabrol, ce vieux qui a le balayage du marché. Il ne savait que faire de Rose. Je lui apprends un peu de cuisine. »
La bonne sortait.
« Quel âge a-t-elle donc ? » demanda le major.
« À peine 17 ans. « C'est bête, c'est sale, mais je ne lui donne que 10 francs par mois et elle ne mange que de la soupe. » Lorsque Rose rentra avec une pile d'assiettes, Laguitte, que les filles intéressaient peu, la suivit du regard, étonnée d'en rencontrer une si laide. Elle était petite, très noire, légèrement bossue, avec une face de guenon, à nez épaté, à bouche fendue largement, et où luisaient de minces yeux verdâtres. Les reins larges et les bras longs, elle avait l'air très fort.
« Sacré nom, quelle gueule !»
dit la guide égayée, quand la bonne fut sortie de nouveau, en quête du sel et du poivre.
« Bah !» murmura Burle négligemment. « Elle est très complaisante. Elle fait tout ce qu'on veut. C'est toujours assez bon pour laver la vaisselle. »
Le dîner fut charmant. Il y avait le pot-au-feu et un ragoût de mouton. On fit raconter à Charles des histoires de son collège. Madame Burle, afin de montrer combien il était gentil, lui posa plusieurs fois sa question. « N'est-ce pas que tu veux être militaire ?» Et un sourire effleurait ses lèvres blanches, lorsque le petit répondait avec une obéissance craintive de chien savant. « Oui, grand-mère. » Le capitaine Burle avait posé les coudes sur la table, mâchant lentement, absorbé. Une chaleur montait. L'unique lampe qui éclairait la table laissait les coins de la vaste pièce dans une ombre vague. C'était un bien-être alourdi, une intimité de gens sans fortune qui ne changent pas d'assiette à tous les plats et qu'un compotier plein d'œufs à la neige, servi au dernier moment, met en gaieté. Rose, dont les talons lourds faisaient danser la table lorsqu'elle tournait derrière les convives, n'avait pas encore ouvert la bouche. Elle vint se planter près du capitaine. Elle demanda d'une voix rauque « Monsieur veut du fromage ?»«
Hein ? Quoi ?»
dit Burle en tressaillant. « Ah oui, du fromage. Tiens bien l'assiette. » Il coupa un morceau de gruyère, tandis que la petite, debout, le regardait de ses yeux minces. La guitte riait. Depuis le commencement du repas, Rose l'amusait énormément. Il baissait la voix. Il murmurait à l'oreille du capitaine.
« Non, tu sais, je la trouve épatante. On n'a pas le nez ni la bouche bâtie comme ça. En voilà donc un jour chez le colonel, histoire de la lui montrer. Ça le distraira. »
Cette laideur l'épanouissait paternellement. Il désira la voir de près.
« Dis donc, ma fille, et moi, j'en veux bien du fromage. »
Elle vint avec l'assiette. Et lui, le couteau planté dans le gruyère, s'oubliait à la regarder, riant d'aise, parce qu'il découvrait qu'elle avait une narine plus large que l'autre. Rose, très sérieuse, se laissant dévisager, attendait que le monsieur eût fini de rire. Elle ôta la table, elle disparut. Burle s'endormit tout de suite au coin du feu, pendant que le major et madame Burle causaient. Charles s'était remis à ses devoirs. Une grande paix tombait du haut plafond, cette paix des familles bourgeoises que leur bonne entente rassemble dans la même pièce. À 9 heures, Burle se réveilla en bâillant et déclara qu'il allait se coucher. Il demandait pardon, mais ses yeux se fermaient malgré lui. Quand le major partit, une demi-heure plus tard, madame Burle chercha vainement Rose pour qu'elle l'éclairât. Elle devait être déjà montée dans sa chambre. Une vraie poule, cette fille, qui ronflait des 12 heures à point fermé.
« Ne dérangez personne, » dit la guide sur le palier. « Je n'ai pas de meilleures jambes que vous, mais en tenant la rampe, je ne me casserai rien. »
« Enfin, chère dame, je suis bien heureux. Voilà vos chagrins finis. J'ai étudié Burle, et je vous jure qu'il ne cache pas la moindre farce. Nom de Dieu, il était temps qu'il sortît les jupons. Ça tournait mal. » Le major s'en allait ravi. Une maison de braves gens, et où les murs étaient de verre. Pas moyen d'y enfouir des saletés. Dans cette conversion, ce qui l'enchantait, au fond, c'était de n'avoir plus à vérifier les écritures du capitaine. Rien ne l'assommait comme toutes ces paperasses. Du moment que Burle se rangeait, lui pouvait fumer des pipes et donner des signatures, les yeux fermés. Pourtant, il veillait toujours d'un œil. Les reçus étaient bons, les totaux s'équilibraient admirablement. Aucune irrégularité. Au bout d'un mois, il ne faisait plus que feuilleter les reçus et s'assurer des totaux, comme il avait toujours fait d'ailleurs. Mais Un matin, sans aucune méfiance, uniquement parce qu'il avait rallumé une pipe, ses yeux s'attardèrent à une addition. Il constata une erreur de 13 francs. Le total était forcé de 13 francs pour balancer les comptes. Et il n'y avait pas eu d'erreur dans les sommes portées, car il les collationna sur les reçus. Cela lui sembla louche. Il n'en parla pas à Burle. Il se promit de revoir les additions. La semaine suivante, nouvelle erreur, 19 francs en moins. Alors, saisi d'inquiétude, il s'enferma avec les registres, il passa une matinée abominable à tout reprendre, à tout additionner, suant, jurant, le crâne éclatant de chiffres. Et à chaque addition, il constatait un vol de quelques francs. C'était misérable, 10 francs, 8 francs, 11 francs. Dans les dernières, cela tombait à 4 et 3 francs, et il y en avait même une sur laquelle Burle n'avait pris qu'1,50 franc. Depuis près de 2 mois, le capitaine rognait ainsi les écus de sa caisse. En comparant les dates, le major put établir que la fameuse leçon l'avait fait se tenir tranquille juste pendant 8 jours. Cette découverte acheva de l'exaspérer.
« Nom de Dieu, de nom de Dieu !»
gueulait-il tout seul en donnant des coups de poing sur les registres.
« C'est encore plus sale! Au moins les faux reçus de Gagneux, c'était crâne! Tandis que cette fois, nom de Dieu, le voilà aussi bas qu'une cuisinière qui chipe 2 sous sur un pot-au-feu! Allez gratter sur les additions! Foutre 1,50 franc dans sa poche! « De Dieu, nom de Dieu! Sois donc plus fier, salaud! Emporte la caisse et va la bouffer avec des actrices !»
La pauvreté honteuse de ses vols l'indignait. En outre, il était furieux d'avoir été dupé de nouveau par ce moyen des additions fausses, si simple et si bête. Il se leva, il marcha pendant 1 heure dans son cabinet, hors de lui, ne sachant que faire, lâchant des phrases à voix haute.
« Décidément, c'est un homme toisé. Il faut agir. Je lui flanquerai une suée chaque matin, que ça ne l'empêcherait pas, tous les après-midi, de se coller dans le gousset sa pièce de 3 francs. Mais, tonnerre de Dieu, où mange-t-il ça? Il ne sort plus. Il se couche à 9 heures, et tout paraît si honnête, si gentil chez eux. Est-ce que le cochon a encore des vices qu'on ne lui connaît pas ?»
Il se remit à son bureau, additionna les sommes soustraites qui montaient à 545 francs. Où prendre cet argent? L'inspection, justement, approchait. Il suffisait que ce maniaque de colonel s'avisât de refaire une addition pour que le pot aux roses fût découvert. Cette fois, Burle était fichu. Cette idée calma le major. Il ne jurait plus, il restait glacé, avec l'image de Madame Burle toute droite et désespérée devant lui. En même temps, il avait le cœur si gros pour son compte que sa poitrine éclatait.
« Voyons, murmura-t-il,
il faut avant tout que je voie clair dans les histoires de ce bougre-là. Après, il sera toujours temps d'agir. » Il se rendit au bureau de Burle. Du trottoir d'en face, il aperçut une jupe qui disparaissait dans l'entrebâillement de la porte. Croyant tenir le pot aux roses, il se glissa derrière elle et écouta. C'était Mélanie. Il la reconnut à sa voix flûtée de grosse femme. Elle se plaignait de ces messieurs du divan. Elle parlait d'un billet qu'elle ne savait comment payer. Les huissiers étaient chez elle. Tout allait être vendu. Puis, comme le capitaine répondait à peine, disant qu'il n'avait pas un sou, elle finit par éclater en larmes. Elle le tutoya, l'appela « le chéri à sa mère ». Mais elle eut beau employer les grands moyens, ses séductions ne durent avoir aucun effet, car la voix sourde de Burle répétait toujours « pas possible, pas possible ». Au bout d'une heure, quand Mélanie se retira, elle était furieuse. Le major, étonné de la façon dont tournaient les choses, attendit un instant pour entrer dans la pièce, où le capitaine était resté seul. Il le trouva très calme. et malgré une furieuse envie de le traiter de triple cochon, il ne lui dit rien, résolu à savoir la vérité d'abord. Le bureau ne sentait pas la coquinerie. Devant la table de bois noir, il y avait, sur le fauteuil cané du capitaine, un honnête rond de cuir, et dans un coin, la caisse était solidement fermée, sans une fente. L'été venait, un champ de serin entrait par une fenêtre. C'était très en ordre, les cartons exhalaient une odeur de vieux papier qui inspirait la confiance.
« N'est-ce pas cette carcasse de Mélanie qui sortait comme j'entrais ?» demanda la guitte.
Burle haussa les épaules en murmurant
« Oui, elle est encore venue me tanner pour que je lui donne 200 francs.
Pas 10 francs, pas 10 sous !»«
Tiens !» reprit l'autre, voulant le sonder. « On m'avait dit que tu la revoyais. »«
Moi ? Ah non, par exemple, j'en ai assez de tous ces chameaux-là. »
La guide se retira très perplexe. À quoi avaient bien pu passer les 545 francs? Est-ce que le brigand, après les femmes, aurait tâté du vin et du jeu? Il se promit de surprendre Burle chez lui le soir même. Peut-être, en le faisant causer et en questionnant sa mère, arriverait-il à connaître la vérité. Mais l'après-midi, il souffrit cruellement de sa jambe. Depuis quelque temps, ça n'allait plus du tout. Il avait dû se résigner à se servir d'une canne pour ne pas boiter trop violemment. Cette canne le désespérait. Comme il le disait avec une rage désolée, maintenant, il était dans les Invalides. Pourtant, le soir, par un effort de volonté, il se leva de son fauteuil. Et, s'abandonnant sur sa canne dans la nuit noire, il se traîna rue des Récollets. 9 heures sonnaient quand il y arriva. En bas, la porte de la rue était entr'ouverte. Il soufflait sur le palier du 3e étage lorsqu'un bruit de voix, à l'étage supérieur, le surprit. Il avait cru reconnaître la voix de Burle. Par curiosité, il monta. Au fond d'un couloir, à gauche, une porte laissait passer une raie de lumière. Mais, au craquement de ses bottes, la porte se referma, et il se trouva dans une obscurité profonde.
« C'est idiot, » pensa-t-il, « quelque cuisinière qui se couche. »
Pourtant, il vint le plus doucement possible coller son oreille contre la porte. 2 voix causaient. Il resta béant. C'était ce cochon de Burle et ce monstre de Rose.
« Tu m'avais promis 3 francs !»
disait rudement la petite bonne.
« Donne-moi 3 francs !»«
Ma chérie, je te les apporterai demain !» reprenait le capitaine d'une voix suppliante.
« Aujourd'hui, je n'ai pas pu. Tu sais que je tiens toujours mes promesses. »
« Non, donne-moi 3 francs ou tu vas redescendre !» Elle devait être déshabillée déjà, assise sur le bord de son lit de sangle, car le lit craquait à chacun de ses mouvements. Le capitaine, debout, piétinait. Il s'approcha.
« Sois gentil, fais-moi de la place. »«
Veux-tu me laisser ?» cria Rose de sa voix mauvaise. « Chapelle, je dis tout à la vieille en bas. Quand tu m'auras donné 3 francs. » Et elle ne sortait pas de ses 3 francs, comme une bête têtue qui refuse de passer. Burle se fâcha, pleura. Puis, pour l'attendrir, il sortit de sa poche un pot de confiture qu'il avait pris dans l'armoire de sa mère. Rose l'accepta, se mit tout de suite à le vider, sans pain, avec le manche d'une fourchette qui traînait sur sa commode. C'était très bon. Mais quand le capitaine crut l'avoir conquise, elle le repoussa du même geste obstiné.
« Je m'en fiche de ta confiture, c'est les 3 francs qu'il me faut !»
À cette dernière exigence, le major leva sa canne pour fendre la porte en deux. Il suffoquait.
« Nom de Dieu, la sacrée garce ! Et dire qu'un capitaine de l'armée française acceptait ça ! Il oubliait la saleté de Burle. Il aurait étranglé cette horreur de femme à cause de ses manières. « Est-ce qu'on marchandait quand on avait une gueule comme la sienne ? C'est elle qui aurait dû payer !» Mais il se retint pour entendre la suite.
« Tu me fais beaucoup de peine, » répétait le capitaine. « Moi qui me suis montré si bon pour toi, je t'ai donné une robe, puis des boucles d'oreilles, puis une petite montre. Tu ne te sers même pas de mes cadeaux.
« Tiens, pour les abîmer, c'est papa qui me garde mes affaires.
« Et tout l'argent que tu m'as tiré,
papa me le place. »
Il y eut un silence, Rose réfléchissait.
« Écoute, si tu jures que tu m'apporteras 6 francs demain soir, je veux bien. Mets-toi à genoux et jure que tu m'apporteras 6 francs.
Non, non, à genoux. »
Le major Laguitte, frémissant, s'éloigna de la porte et resta sur le palier, adossé au mur. Ses jambes s'en allaient, et il brandissait sa canne comme un sabre dans la nuit noire de l'escalier. Ah, nom de Dieu ! Il comprenait pourquoi ce cochon de Burle ne quittait plus son chez-lui et se couchait à 9 heures. Une jolie conversion, je t'en fiche ! Et avec un sale trognon que le dernier des troupiers n'aurait pas ramassé sur un tas d'ordures.
« Mais sacré nom !» dit le major tout haut. « Pourquoi n'a-t-il pas gardé Mélanie ?»
Que faire maintenant ? Entrer et leur flanquer à tous les deux une volée de coups de canne ? C'était son idée d'abord. Puis, il avait eu pitié de la pauvre vieille en bas. Le mieux était de les laisser à leur ordure. On ne tirerait plus rien de propre du capitaine. Quand un homme en tombait là, on pouvait lui jeter une pelletée de terre sur la tête pour en finir comme avec une bête pourrie, empoisonnant le monde. Et l'on aurait beau lui mettre le nez dans son caca, il recommencerait le lendemain. Il finirait par prendre des sous afin de payer des sucres d'orge aux petites mendiantes pouilleuses. Nom de Dieu, l'argent de l'armée française et l'honneur du drapeau! Et le nom de Burle, ce nom respecté qui allait finir dans la crotte. Nom de Dieu, de nom de Dieu, ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Un instant, le major s'attendrit. Si encore il avait eu les 545 francs, mais pas un liard. La veille, à la pension, après s'être grisé de cognac, comme un sous-lieutenant, il avait pris une culotte abominable. C'était bien fait s'il traînait la jambe. Il aurait mérité d'en crever. Alors il laissa les 2 vaches faire dodo. Il descendit et sonna chez Madame Burle. Au bout de 5 grandes minutes, ce fut la vieille dame qui vint ouvrir elle-même. « Je vous demande pardon, » dit-elle. « Je croyais que cette marmotte de Rose était encore là. Il faut que j'aille la secouer dans son lit. » Le major la retint. « Et Burle ? » demanda-t-il. « Oh, lui, ronfle depuis 9 heures. Voulez-vous frapper à la porte de sa chambre ?»«
Non, non, je désire seulement vous dire un petit bonsoir. »
Dans la salle à manger, Charles, devant la table, à sa place ordinaire, venait d'achever sa version. Mais il avait l'air terrifié, et ses pauvres mains blanches tremblaient. Sa grand-mère, avant de l'envoyer se coucher, lui lisait des récits de bataille pour développer en lui l'héroïsme de la famille. Ce soir-là, l'histoire du Vengeur, ce vaisseau chargé de mourants qui s'engloutit dans la vaste mer, laissait l'enfant sous le coup d'une crise nerveuse, la tête emplie d'un horrible cauchemar. Madame Burle demanda au major la permission d'achever sa lecture. Puis, elle ferma le livre solennellement, quand le dernier matelot eut crié « Vive la République !» Charles était blanc comme un linge.
« Tu as entendu ?» dit la vieille dame. « Le devoir de tout soldat français est de mourir pour la patrie. »
« Oui, grand-mère. »
Il l'embrassa sur le front et s'en alla grelottant de peur se coucher dans sa grande chambre où le moindre craquement des boiseries lui donnait des sueurs froides. Le major avait écouté d'un air grave.
« Oui, nom de Dieu, l'honneur était l'honneur, et jamais il ne laisserait ce gredin de Burle déshonorer la pauvre vieille et ce moutard. Puisque le gamin avait tant de goût pour l'état militaire, il fallait qu'il pût entrer à Saint-Cyr, la tête haute. » Pourtant,
Le major reculait devant une sacrée idée qui lui entrait dans la tête depuis l'histoire des 6 francs là-haut, lorsque Madame Burle prit la lampe et l'accompagna. Comme elle passait devant la chambre du capitaine, elle fut surprise de voir la clé sur la porte, ce qui n'arrivait jamais. « Entrez donc, » dit-elle, « c'est mauvais pour lui de t'endormir, ça le rend lourd. » Et avant qu'il pût l'en empêcher, elle ouvrit la porte et demeura glacée en trouvant la chambre vide. La guitte était devenue très rouge, et il avait l'air si bête qu'elle comprit tout d'un coup, éclairée par le souvenir de 1000 petits faits.
« Vous le saviez, vous le saviez !» bégaya-t-elle. « Pourquoi ne pas m'avertir ? Mon Dieu, chez moi, à côté de son fils, avec cette laveuse de vaisselle, avec ce monstre, et il a encore volé, je le sens !»
Elle restait toute froide, blanche et raidie. Puis, elle ajouta d'une voix dure,
« Tenez, je le voudrais mort !»
La guitte lui prit les deux mains, qu'il tint un moment serré fortement dans les siennes. Ensuite, il fila, car il avait un nœud en travers de la gorge. Il aurait pleuré. « Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu ! Cette fois, par exemple, il était décidé !» Chapitre 4. L'inspection générale devait avoir lieu à la fin du mois. Le major avait 10 jours devant lui. Dès le lendemain, il se traîna en boitant au café de Paris où il commanda un bock. Mélanie était devenue toute pâle et ce fut avec la crainte de recevoir une gifle que Frosine se résigna à servir le bock demandé. Mais le major semblait très calme. Il se fit donner une chaise pour allonger sa jambe, puis il but sa bière en brave homme qui a soif. Depuis 1 heure, il était là, quand il vit passer sur la place du palais 2 officiers, le chef de bataillon Morando et le capitaine Doucet, et il les appela en agitant violemment sa canne. « Entrez donc prendre un bock !» leur cria-t-il dès qu'ils se furent approchés. Les officiers n'osèrent refuser. Lorsque la petite bonne les eut servis, « Vous venez ici maintenant ?» demanda Morando au major. « Oui, la bière y est bonne !» Le capitaine Doucet cligna les yeux d'un air malin. « Est-ce que vous êtes du divan, major ?» La guitte se mit à rire sans répondre. Alors on le plaisanta sur Mélanie. Lui haussait les épaules d'un air bonhomme. C'était tout de même un beau corps de femme, et l'on pouvait blaguer. Ceux qui avaient l'air de cracher dessus en auraient tout de même fait leur chou gras. Puis, se tournant vers le comptoir, tâchant de prendre une mine gracieuse, il dit « Madame, d'autres bocs !» Mélanie était si surprise qu'elle se leva et apporta la bière. Quand elle fut devant la table, le major la retint. Même, il s'oublia jusqu'à lui donner de petites tapes sur la main qu'elle avait posée au dossier d'une chaise. Alors, elle-même, habituée aux calottes et aux caresses, se montra très galante, croyant à une fantaisie chez ce vieux démoli, comme elle le nommait avec Frosine. Doucet et Morando se regardaient. Comment ce sacré major succédait à Juponneux ? Ah, sa perlotte, on allait rire au régiment ! Tout d'un coup, la guitte, qui, à travers la porte ouverte, surveillait d'un œil la place du palais, eut une exclamation. « Tiens, Burle !»« Oui, c'est son heure, » dit Frosine en s'approchant elle aussi. « Le capitaine passe tous les après-midi au retour de son bureau. » Le major, malgré sa mauvaise jambe, s'était mis debout. Il bousculait les chaises, il criait « Hé, Burle, arrive donc, tu prendras un boc !» Le capitaine, ahuri, ne comprenant pas comment la guide pouvait se trouver chez Mélanie, avec Doucet et Morando, s'avança machinalement. C'était le renversement de toutes ses idées. Il s'arrêta sur le seuil, hésitant encore. « Un bock !» commanda le major. Puis, se tournant,
« Qu'est-ce que tu as ? Entre donc et assieds-toi. As-tu peur qu'on ne te mange ?»
Quand le capitaine se fut assis, il y eut une gêne. Mélanie apportait le boc avec un léger tremblement des mains, travaillée par la continuelle crainte d'une scène qui ferait fermer son établissement. Maintenant, la galanterie du major l'inquiétait. Elle tâcha de s'esquiver lorsqu'il l'invita à prendre quelque chose avec ces messieurs. Mais, comme s'il eût parlé en maître dans la maison, il avait déjà commandé à Frosine un petit verre d'anisette, et Mélanie fut forcée de s'asseoir entre lui et le capitaine. Il répétait d'un ton cassant « Moi, je veux qu'on respecte les dames. Soyons chevaliers français, nom de Dieu. À la santé de madame !» Burle, les yeux sur sa chope, gardait un sourire embarrassé. Les deux autres officiers, choqués de trinquer ainsi, avaient déjà tenté de partir. Heureusement, la salle était vide. Seuls les petits rentiers autour de leur table faisaient leur partie de l'après-midi, tournant la tête à chaque juron, scandalisés de voir tant de monde et prêts à menacer Mélanie d'aller au café de la gare, si la troupe devait les envahir. Tout un vol de mouches bourdonnait, attiré par la saleté des tables, que Frosine ne lavait plus que le samedi. Étendue dans le comptoir, la petite bonne s'était remise à lire un roman. « Eh bien, tu ne trinques pas avec madame ?» dit rudement le major à Burle. « Sois poli au moins !» Et comme Doucet et Morando se levaient de nouveau, « Attendez donc, nom de Dieu, nous partons ensemble !» C'est cet animal-là qui n'a jamais su se conduire. » Les deux officiers restèrent debout, étonnés de la brusque colère du major. Mélanie voulut mettre la paix avec son rire de fille complaisante en posant ses mains sur les bras des deux hommes. Mais la guide reparlait. « Non, laissez-moi. Pourquoi n'a-t-il pas trinqué? Je ne vous laisserai pas insulter, entendez-vous? À la fin, j'en ai assez de ce cochon-là. » Burle, très pâle sous cette insulte, se leva et dit à Morando « Qu'a-t-il donc? Il m'appelle pour me faire une scène. Est-ce qu'il est saoul ?»« Nom de Dieu, de nom de Dieu !» gueula le major. Et, se mettant debout à son tour, tremblant sur ses jambes, il allongea à toute volée une gifle au capitaine. Mélanie n'eut que le temps de se baisser pour n'en pas recevoir la moitié sur l'oreille. Ce fut un tapage affreux. Frosine jeta des cris dans le comptoir comme si on l'avait battue. Les petits rentiers, terrifiés, se retranchèrent derrière leur table, croyant que tous ces soldats allaient tirer leurs sabres et se massacrer. Cependant, Doucet et Morando avaient saisi le capitaine par les bras pour l'empêcher de sauter à la gorge du major. Et ils l'emmenaient doucement vers la porte. Dehors, ils le calmèrent un peu, en donnant tous les torts à la guitte. Le colonel prononcerait, car le soir même ils iraient lui soumettre le cas, comme témoin de l'affaire. Quand ils eurent éloigné Burle, ils rentrèrent dans le café, où la guitte, très émue, des larmes sous les paupières, affectait un grand calme en achevant son boc. « Écoutez, major, dit le chef de bataillon, c'est très mal, le capitaine n'a pas votre grade, et vous savez qu'on ne peut l'autoriser à se battre avec vous. »«
Oh, nous verrons, » répondit le major.
« Mais que vous a-t-il fait? Il ne vous parlait seulement pas. Deux vieux camarades, c'est absurde !»
Le major eut un geste vague.
« Tant pis, il m'embêtait !»
Et il ne sortit plus de cette réponse, on n'en sut jamais davantage. Le bruit n'en fut pas moins énorme. En somme, l'opinion de tout le régiment était que Mélanie, enragée d'avoir été lâchée par le capitaine, l'avait fait gifler par le major, tombé lui aussi dans ses griffes et auquel elle devait raconter des histoires abominables. Qui aurait cru ça de cette vieille peau de la guitte, après toutes les horreurs qu'il lâchait sur les femmes? À son tour, il était pincé. Malgré le soulèvement contre Mélanie, l'aventure la posa comme une femme très en vue, à la fois crainte et désirée, et dont la maison fit dès lors
des affaires superbes. Le lendemain, le colonel avait convoqué le major et le capitaine. Il les sermonna durement en leur reprochant d'avoir déshonoré l'armée dans des endroits malpropres. Qu'allait-il résoudre à présent, puisqu'il ne pouvait les autoriser à se battre? C'était la question qui, depuis la veille, passionnait le régiment. Des excuses semblaient inacceptables à cause de la gifle. Pourtant, comme la guitte, avec sa mauvaise jambe, ne se tenait plus debout, on pensait qu'une réconciliation aurait peut-être lieu, si le colonel l'exigeait. « Voyons, reprit le colonel, me prenez-vous pour arbitre ?»« Pardon, mon colonel, interrompit le major, je viens vous apporter ma démission, la voici. Cela arrange tout. Veuillez fixer le jour de la rencontre. » Burle le regarda d'un air surpris. De son côté, le colonel crut devoir présenter quelques observations. « C'est bien grave, major, la détermination que vous prenez là. Vous n'aviez plus que 2 ans pour arriver à la retraite. » Mais de nouveau, la guitte lui coupa la parole en disant d'une voix bourrue « Ça me regarde. » « Oh, parfaitement. Eh bien, je vais envoyer votre démission. Et dès qu'elle aura été acceptée, je fixerai le jour de la rencontre. » Ce dénouement stupéfia le régiment. Qu'avait-il donc dans le ventre, cet enragé de major, à vouloir quand même se couper la gorge avec son vieux camarade Burle? On reparla de Mélanie et de son beau corps de femme. Tous les officiers en rêvaient maintenant, allumés par cette idée qu'elle devait être décidément très bien pour emballer ainsi de vieux durs à cuire. Le chef de bataillon Morando, ayant rencontré la guitte, ne lui cacha pas ses inquiétudes. S'il n'était pas tué, comment vivrait-il? Car il n'avait pas de fortune, et c'était tout juste s'il mangerait du pain avec la pension de sa croix d'officier et l'argent de sa retraite, réduite de moitié. Pendant que Morando parlait, la guitte, roulant ses gros yeux, regardait fixement le vide, enfoncé dans la muette obstination de son crâne étroit. Puis, lorsque l'autre tâcha de le questionner sur sa haine contre Burle, il répéta sa phrase en l'accompagnant du même geste vague. « Il m'embêtait, tant pis !» Chaque matin, à la cantine, à la pension des officiers, la première parole était « Eh bien, est-elle arrivée, cette démission ?» On attendait le duel. On en discutait surtout l'issue probable. Le plus grand nombre croyait que la guitte serait embrochée en 3 secondes. Car c'était absurde de vouloir se battre à son âge, avec une jambe paralysée qui ne lui permettait seulement pas de se fendre. Quelques-uns pourtant hochaient la tête. Certes, la guitte n'avait jamais été un prodige d'intelligence. On le citait même depuis 20 ans pour sa stupidité. Mais autrefois, il était connu comme le premier tireur du régiment. Et, parti enfant de troupe, il avait gagné ses épaulettes de chef de bataillon par une bravoure d'homme sanguin qui n'a pas conscience du danger. Au contraire, Burle, tireur médiocre, passait pour un poltron. Enfin, il faudrait voir. Et l'émotion grandissait, car cette diablesse de démission restait bien longtemps en route. Le plus inquiet, le plus bouleversé, était certainement le major. 8 jours s'étaient passés, l'inspection générale devait commencer le surlendemain. Rien ne venait. Il tremblait d'avoir giflé son vieil ami, donné sa démission pour le plaisir, sans retarder le scandale d'une minute. Lui, tué, il n'aurait pas l'embêtement de voir ça. Et s'il tuait Burle, comme il y comptait, on étoufferait l'affaire tout de suite. Il aurait sauvé l'honneur de l'armée, et le petit pourrait entrer à Saint-Cyr. Mais nom de Dieu, ces gratte-papiers du ministère avaient besoin de se presser. Le major ne tenait plus en place. On le voyait rôder devant la poste, guetter les courriers, interroger le planton chez le colonel pour savoir. Il ne dormait plus, et se fichant du monde désormais, il s'abandonnait sur sa canne, il boitait abominablement. La veille de l'inspection, Il se rendait chez le colonel une fois encore, lorsqu'il resta saisi en apercevant à quelques pas Madame Burle qui menait Charles au collège. Il ne l'avait pas revue, et de son côté, elle s'était enfermée chez elle. Défaillant, il se rangea sur le trottoir pour le lui laisser tout entier. Ni l'un ni l'autre ne se saluèrent, ce qui fit lever de grands yeux étonnés au petit garçon. Madame Burle, l'air froid, la taille haute, frôla le major sans un tressaillement. Et lui, quand elle l'eut dépassé, la regarda s'éloigner d'un air d'ahurissement tendre.
« Nom de Dieu, je ne suis donc pas un homme !»
grogna-t-il en renfonçant ses larmes. Comme il entrait chez le colonel, un capitaine qui était là lui dit « Eh bien, ça y est, le papier vient d'arriver !»«
Ah !» murmura-t-il très pâle.
Et il revoyait la vieille dame s'en aller, avec l'enfant à la main, dans sa raideur implacable.
« Tonnerre de Dieu ! Dire qu'il avait souhaité si ardemment l'arrivée du papier depuis 8 jours, et que ce chiffon-là, maintenant, le bousculait et lui chauffait à ce point les entrailles !»
Le duel eut lieu le lendemain matin, dans la cour de la caserne, derrière un petit mur. L'air était vif, un clair soleil luisait. On fut presque obligé de porter la guitte. Un de ses témoins lui donnait le bras, tandis qu'il s'appuyait de l'autre côté sur sa canne. Burle, le visage bouffi d'une mauvaise graisse jaune, avait l'air de dormir debout, comme assommé par une nuit de noces. Pas une parole ne fut échangée. Tout le monde avait hâte d'en finir. Ce fut le capitaine Doucet, un des témoins, qui engagea le fer. Il recula et dit « Allez, messieurs !» Burle attaqua aussitôt, voulant tâter la guitte et savoir ce qu'il devait en attendre. Depuis 10 jours, cette affaire était pour lui un cauchemar absurde où il ne pouvait se retrouver. Un soupçon lui venait bien, mais il l'écartait avec un frisson, car la mort était au bout. Et il se refusait à croire qu'un ami lui jouât une pareille farce pour arranger les choses. D'ailleurs, la jambe de la guitte le rassurait un peu. Il le piquerait à l'épaule et tout serait dit. Pendant près de 2 minutes, les épées se froissèrent avec leur petit bruit d'acier. Puis, le capitaine fit un dégagé et voulut se fendre. Mais le major, retrouvant son poignet d'autrefois, eut une terrible parade de quinte. Et s'il avait riposté, le capitaine était percé de part en part. Celui-ci se hâta de rompre, livide, se sentant à la merci de cet homme qui venait de lui faire grâce cette fois. Il comprenait enfin, c'était bien une exécution. Pourtant, la guitte, carrément posée sur ses mauvaises jambes, devenue de pierre, attendait. Les deux adversaires se regardaient fixement. Dans les yeux troubles de Burle, parut une supplication, une prière de grâce. Il savait pourquoi il allait mourir, et, comme un enfant, il jurait de ne plus recommencer. Mais les yeux du major restaient implacables. L'honneur parlait. Il étranglait son attendrissement de brave homme. « Finissons » murmura-t-il entre ses dents. Cette fois, ce fut lui qui attaqua. Il y eut un éclair. Son épée flamba en passant de droite à gauche, revint, et alla se planter par un coup droit foudroyant dans la poitrine du capitaine, qui tomba comme une masse sans même pousser un cri. La guitte avait lâché l'épée, tout en regardant sa pauvre vieille vache de Burle étendue sur le dos, avec son gros ventre en l'air. Il répétait, furieux et cassé d'émotion, « Nom de Dieu, de nom de Dieu !» On l'emmena. Ses deux jambes étaient prises, ses témoins durent le soutenir à droite et à gauche, car il ne pouvait même plus se servir de sa canne. 2 mois plus tard, l'ancien major se traînait au soleil, dans une rue déserte de Vauchamp, lorsqu'il se trouva de nouveau face à face avec Madame Burle et le petit Charles. Tous les deux étaient en grand deuil. Il voulut les éviter, mais ils marchaient mal, et ils arrivaient droit sur lui, sans ralentir ni presser le pas. Charles avait toujours son doux visage effrayé de fille. Madame Burle gardait sa haute mine rigide, plus dure et plus creusée. Comme la guide se rentrait dans l'angle d'une porte cochère pour leur abandonner toute la rue, elle s'arrêta brusquement devant lui, elle tendit la main. Il hésita, il finit par la prendre et la serrer. Mais il tremblait tellement qu'il secouait le bras de la vieille dame. Il y eut un silence, un échange muet de regards. « Charles, dit enfin la grand-mère, donne la main au major. » L'enfant obéit sans comprendre. Le major était devenu très pâle. À peine osa-t-il effleurer les doigts délicats du petit. Puis, comprenant qu'il devait dire quelque chose, il ne trouva que cette phrase. « C'est toujours à Saint-Cyr que vous comptez le mettre ?»«
Sans doute, quand il aura l'âge, » répondit Madame Burle.
La semaine suivante, Charles fut emporté par une fièvre typhoïde. Un soir, sa grand-mère lui avait relu le combat du vengeur pour la guérir, et le délire l'avait pris dans la nuit. Il était mort de peur.